Romains 4. Nous allons dans Romains 4. On va lire, ou je devrais dire relire, parce qu'on a lu dans le chapitre 4. Avant, rappelez-vous que je vous avais dit que j'avais à cœur de partager les « Mais Dieu, mais maintenant » avec notre thème, parce que notre Dieu est la source de tout ce qui est bon, de tout ce qui est toute grâce excellente vient de lui. Et une chose qui nous montre ça dans la Bible, c'est les revirements de « Mais Dieu ». Souvent, c'était la condamnation « Mais Dieu, nous étions morts, mais Dieu nous a rendus à la vie » ou « Mais maintenant ». Ben là, il y en a un ici que je vais vous lire dans Romains 3, 21, avant de lire dans Romains 4. Parce que c'est la base de ce qu'on voit illustré avec la vie d'Abraham qu'on considère ce matin, entre autres. Mais regardez Romains 3, 21. « Mais maintenant, sans la loi, et manifester la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, dont Abraham faisait partie. On peut dire que c'est un patriarche, mais il avait aussi ce rôle de prophète de son temps, à qui Dieu a révélé sa parole. Donc, ce revirement de situation, où est-ce que la loi nous condamne de façon universelle, ce n'est pas la fin de l'histoire. La grâce de Dieu est intervenue en notre Seigneur Jésus-Christ. Et comment est-ce qu'on vit cette grâce? C'est par la foi. Et c'est ça qu'on considère ce matin. J'aimerais juste qu'on regarde, on va aller au cœur de ce que je veux qu'on considère ce matin. On va revenir sur plusieurs versets pendant le message, mais je veux juste commencer au verset 18 pour un peu se mettre dans ce qui arrivait dans la vie d'Abraham, qui est mis de l'avant dans notre chapitre ici. « Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, « Telle sera ta postérité. » Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps qui était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. On te remercie, Seigneur, de ce que on considère ta parole vivante. Avec, on va considérer la vie de saints bien-aimés qu'on aime dans ta parole, dont Abraham, mais aussi Job, Ruth, Moïse. Et Seigneur, merci que c'est la grande nuée de témoins de laquelle on est environné. Et Seigneur, tu nous appelles maintenant, nous, dans le moment où est-ce que tu nous as placés, à fixer les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. C'est ce qu'on fait ensemble ce matin, où on regarde à toi, le Dieu qui est la source de toute gloire. Et Seigneur, on regarde par toi, à toi par la foi. Seigneur, fais ce que toi t'as désigné de faire pour chacun ici ce matin et aussi en tant qu'Église, Seigneur. On s'attend à toi. Merci que ce n'est pas en vain. Parce qu'on prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. J'aime bien comment ça dit au verset 20. Ça dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Le titre du message, c'est Dieu, source de toute gloire, par le regard de la foi. C'est-à-dire que Abraham, du sein de ce qu'il vivait, de l'épreuve par laquelle il passait, il a regardé au-delà de ce qu'il voyait, pour regarder le Dieu qui était là. Et ça, c'est un pattern. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans la parole de Dieu. Si vous voulez, c'est une vérité présente à travers toutes les Écritures. C'est un peu un fil conducteur des saints de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, qui ont marché par la foi, qui ont vécu par la foi, c'est-à-dire de faire le choix délibéré, et je dirais humble, hein, de ne pas s'appuyer sur leur propre sagesse, mais de regarder au-delà de ce qui est impossible, au-delà de la souffrance, au-delà de la menace, vers le Dieu dont l'amour est tout-puissant, souverain et bienveillant. Regardez à lui avec une foi simple, solide et fixée sur lui. Et Dieu, lorsqu'on fait ça, lorsqu'on voit au-delà de ce qu'on vit, Dieu se révèle tel qu'il est. Il révèle la gloire de sa personne. Et c'est ce que j'aimerais qu'on considère ce matin. Lorsque le peuple de Dieu regarde à son Dieu, le Dieu vivant, et qui du même coup se détourne du regard de la mort que produirait là, de contempler l'impossible, contempler la menace, contempler la souffrance, ben Dieu révèle quelque chose d'unique, d'extraordinaire sur lui-même. Et c'est ça notre plus grand bien, de découvrir notre Dieu. C'est pour ça que Dieu nous envoie les épreuves, parce qu'il veut se révéler à nous. Dieu veut plus que juste nous donner des solutions, régler nos problèmes. Dieu veut se révéler comme étant unique, saint, incomparable, merveilleux, tout à fait suffisant en toutes choses. Et c'est ça que ça veut dire de glorifier Dieu. Je me suis déjà posé la question, on dit gloire à Dieu, on dit je veux glorifier avec ma vie, ouais, mais comment? Ben c'est justement, c'est du sein de ce qu'on est en train de vivre, regarder au Dieu qui est au-delà pour le laisser se manifester. Donc, c'est lui qui prend la première place, c'est lui qui va devenir l'objet de l'attention. Amen. Ça va le glorifier. Et pour nous, on va le découvrir, on va le voir lui se manifester au sein, au beau milieu de circonstances, oui, impossible. Oui, souffrante et menaçante, mais on va le rencontrer, lui, dans son amour qui est tout puissant, qui est souverain, et l'amour de Dieu aussi est bienveillant. C'est ça qu'on va considérer ce matin avec Dieu, la source de toute gloire, par le regard de la foi. Vous savez que Jésus a dit, en parlant à la femme samaritaine au puits de Jacob, que Dieu recherche des adorateurs qui l'adorent en esprit puis en vérité. Et notre adoration spirituelle, de façon concrète, en vérité, c'est de regarder à ce qui est invisible. Pas s'attarder à ce qu'on peut voir de nos yeux, à ce qu'on entend de nos oreilles, puis que souvent, est-ce que c'est vrai, ça nous assaille? On vit des choses, des fois même la situation nous est remis dans la face constamment. On voudrait l'oublier, on voudrait la mettre de côté, mais ça nous revient. Ça, c'est l'épreuve de la foi. Dieu nous appelle à regarder au-delà de ça, de ne pas fixer nos regards sur ces choses visibles. Et là-dessus, écoutez, vous connaissez bien, mais c'est tellement précieux. 2 Corinthiens 4, on partage ça avec une sœur cette semaine, c'est tellement précieux. Écoutez bien, 2 Corinthiens 4, 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Abraham aurait pu perdre courage. Job, Ruth, Moïse. Pourquoi on ne perd pas courage? Même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de grâce. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les visibles sont éternelles. Donc, si on comprend ça, on voit que l'important, c'est où on regarde. Un peu comme quand on s'en va en auto. Je sais pas si je l'ai déjà dit celle-là, mais je vais l'amener plus loin de façon illustrative. Quand on va en auto, si on regarde vers le clos, tu sais, des fois, là, ça arrive un accident, puis il y a un autre accident à l'autre bord. Pourquoi? Parce que les gens regardaient du mauvais bord. Paf, ils foncent dans quelque chose, dans quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'on va se diriger vers l'objet de notre attention. Si l'objet de mon attention, c'est l'épreuve, c'est ce qui va mal, et non pas Dieu, si c'est mes problèmes, ben je vais finir par foncer dedans quelque part. Ou, savez-vous quoi, je vais même les agrandir à fixer nos problèmes, on finit par les voir pires que ce qu'ils sont. Parce qu'on les regarde, puis on les magnifie, puis ça, ils deviennent plus grands que notre Dieu. Parce qu'on médite dessus plus qu'on médite sur notre Dieu. Mais notre Dieu nous appelle à regarder à lui lorsqu'on vit des choses comme ça. Droit devant, pour ne pas faire fausse route. Et lorsqu'on le regarde comme ça, qu'on le contemple lui, oh là, il grandit à nos yeux. Là, c'est lui qui devient donc bien plus grand. Puis c'est quoi? Savez-vous quoi? Nos problèmes, on dirait, comme par magie, ils rapetissent. En fait, c'est vraiment toute une question de perspective. Où je porte mon attention, où je fixe mon attention. Et c'est précisément cette dynamique qu'on va explorer ensemble ce matin, avec des personnages bibliques bien-aimés. Je les ai déjà nommés, on va les regarder un peu ensemble. Trois regards de la foi qui donnent gloire à Dieu. D'abord Abraham, qu'on a ici dans Romains 4. Abraham a regardé au-delà de l'impossible. C'était carrément quelque chose d'impossible que Dieu mettait devant eux autres. Il ne pouvait pas avoir des enfants, il était trop vieux. Mais regardez ce que ça dit au verset 19. « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point, il n'a pas regardé à son corps, à son physique, son corps déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah, il n'a pas regardé non plus à celui de sa femme, qui n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » Il n'a pas considéré le physique, il a regardé aux promesses de Dieu, au Dieu des promesses, donnant gloire à Dieu. Et là, je dis ici, c'est un exemple avec l'impossible. Jéricho, c'était pareil. C'était impossible de faire tomber des murs de même. C'était la ville la plus fortifiée, la plus impressionnante. Puis Dieu leur demande de commencer avec ça. Tu sais, il aurait pu dire, commencez par une petite ville, tu sais, pratiquez-vous. Non, non, avec Dieu, là, on va y aller avec le pire en partant. Vous allez voir comment, moi, je suis le Dieu de l'impossible. Ou même chose, Josaphat, à un moment donné, il y avait une coalition d'armées. Certains vont dire qu'il y avait près de 1 million de gens qui assiégeaient la ville de Jérusalem. Puis lui, c'est quoi son secours? C'était l'Éternel. Il n'a pas essayé de s'appuyer sur le bras de sa chair, mais il a crié à l'Éternel et Dieu l'a délivré. Et donc, cette dynamique spirituelle, c'est quoi? C'est celle du choix délibéré de ne pas considérer ce qu'on voit. Pour le cas ici d'Abraham, c'était son corps, celui de sa femme, leur condition physique qui les empêchait d'avoir des enfants alors que la promesse était, tu vas avoir une postérité. On sait qu'il avait essayé avec Agar, c'était pas ça la volonté de Dieu. Donc là, c'était vraiment regarder au-delà de l'impossible. Mais on sait qu'il était motivé par une conviction par rapport à qui Dieu est. Regardez le verset 21. « Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » Ça, c'est une conviction par rapport à qui Dieu est. Si Dieu promet quelque chose, il est assez grand, il est tout puissant, il est capable de l'accomplir. Il était convaincu par rapport à qui Dieu est. Dans sa vie, là, c'est une conviction, une puissance motivatrice. Et ça, c'est ça que l'a glorifié Dieu. Il a donné gloire à Dieu avec cette conviction-là, cette foi, cette confiance en son Dieu qui regardait au-delà de l'impossibilité d'avoir des enfants. Et Dieu a récompensé ça. C'est pourquoi, verset 22, « Cela lui fut imputé à justice. » Et ça dit que ce n'est même pas juste pour Abraham. Mais ce n'est pas à cause de lui seul, verset 23, qu'il est écrit que cela lui fut imputé à justice. C'est encore à cause de nous, à qui cela est imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Donc, ce n'est pas à cause de lui seul, c'est-à-dire cette foi qui sauve, cette foi vivante, bon, ça s'applique au salut, imputé à justice, comment on a été sauvé par la grâce au moyen de la foi. Hein, regarder au-delà de l'impossible de se sauver nous-mêmes. Hein, on ne peut pas se sauver nous-mêmes par nos bonnes œuvres, par nos bonnes intentions. Mais on regarde à celui qui sauve parfaitement, n'est-ce pas? C'est ça le salut. Mais c'est aussi un principe qui s'applique à la vie chrétienne, à l'entrée dans la vie chrétienne, mais tout le reste de la vie chrétienne aussi avec notre union avec Jésus-Christ. La vie est changée, la vie abondante. On ne peut qu'expérimenter la paix et l'assurance en Dieu qu'en regardant au-delà de l'impossible. Il y a toutes sortes de choses impossibles dans notre vie. On parlait la semaine passée de changer quelqu'un. C'est impossible pour nous de changer quelqu'un. On dit que quand on essaye de le faire, ça devient un irritant, ça rempire les choses. On change la situation, mais pour le pire, pas pour le mieux. Puis on ne change pas la personne. On fait juste être du sort dans l'engrenage. Mais dès qu'on contemple l'impossible, savez-vous qu'est-ce qui arrive? On perd cette approbation, cette signature surnaturelle de Dieu sur nos circonstances. Et pour Abraham, c'était tellement lourd, donc en conséquence, si lui s'arrêtait à ce qui était impossible, au fait qu'il était vieux, que sa femme était vieille, c'était non seulement son destin à lui, mais celui de la nation d'Israël, puis même de l'humanité entière, parce que on l'a vu, hein, la promesse était pour toutes les nations vont être bénies en toi, c'est une citation de Genèse 12, 3. Et donc, tout était une question de foi, de regarder au-delà de l'impossible, et tout était dans la balance pour Abraham et toute sa descendance, d'où l'importance, écoutez bien, il y a un pattern avec mon message aujourd'hui, ici on voit regarder l'impossible, au-delà de l'impossible, d'où l'importance d'être sécure, d'être solide, dans l'amour tout-puissant de Dieu. Si Dieu nous aime et que son amour est tout-puissant, il va aller au-delà de toute barrière, de toute limitation qu'il pourrait y avoir. Et là-dessus, juste une petite illustration, vous connaissez notre ami Job, tout au long du livre, Job aurait bien voulu une explication sur ce qui arrivait, mais Dieu ne lui a jamais donné. Mais qu'est-ce qu'il a donné? Encore mieux, une révélation de lui-même. Et je vous dis, le Dieu de toute gloire qui se révèle par le regard de la foi, c'est ça la solution à nos problèmes. Si c'est impossible, la solution, c'est pas d'essayer de surmonter l'impossible, c'est regarder au Dieu, que le Dieu se révèle comme étant le Dieu de l'impossible, le Dieu qui est au-delà de tout problème. Et vous vous rappelez, j'avais dit aussi la semaine passée, c'était pas de moi, mais c'était une citation de Nick Wojcik. Ne dites pas à Dieu comment vos problèmes sont grands, mais dites à vos problèmes comment votre Dieu est grand. C'est pas mal mieux, hein? Et en parlant de Job, ça m'amène au deuxième regard de la foi qui glorifie Dieu. Regardez au-delà de la souffrance. Avec Abraham, on a regardé au-delà de l'impossible. Avec Job, on va voir aussi, avec une autre personne, on regardait au-delà de la souffrance. Pour Job, ça nous dit, dans Job 13, 13, « Taisez-vous, laissez-moi, je veux parler. » Il m'en arrivera ce qu'il pourra. Pourquoi saisirai-je ma chair entre les dents? J'exposerai plutôt ma vie. Voici quand même, il me tuerait. Job 13, 15. Je ne cesserai d'espérer en lui, mais devant lui, je défendrai ma conduite. On voit que Job était dans une souffrance incroyable et Dieu l'appelle à voir au-delà. Dieu voulait qu'il voie le Dieu qui était au contrôle, qui permettait cette souffrance avec un but. C'est la même chose aussi dans Nombre 21, où est-ce qu'il était mordu par des serpents, puis au lieu de regarder le serpent, il fallait qu'il regarde à la solution divine, à Christ sur la croix. C'est une préfiguration de Christ qui est maudit pour nous. C'était ça la solution. C'était un serpent, mais pas celui qui venait de le mordre. C'était Christ qui était ici dépeint comme étant, devenant péché pour nous. Et maintenant, j'ai parlé de Job, j'ai parlé de Nombre 21, mais je veux surtout m'arrêter avec le deuxième point, regarder au-delà de la souffrance, à l'exemple de Ruth. Ruth, on peut s'y identifier peut-être un peu plus, parce que qui a souffert comme Job, je ne sais pas trop, mais peut-être qu'on a vécu certains drames familiaux, certaines choses qui nous sont arrivées, où est-ce qu'on peut faire des liens avec l'histoire de Ruth. On sait que Ruth commence, hein? Ruth 1, c'est l'histoire d'un drame familial. Il y a la famine, puis là, ça va mal. Les gens meurent, tous les hommes. Mais quelle est la réponse de Ruth à cela? Vous connaissez la belle profession de foi de Ruth. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. » Et ton Dieu sera mon Dieu. Ça, c'est Ruth qui regarde au-delà de la souffrance. N'oublions pas qu'elle venait de perdre son mari. Elle avait laissé son peuple. Elle a perdu son mari. Puis là, elle s'en allait dans l'inconnu total. Elle devait souffrir énormément dans son cœur. Aussi d'avoir toute cette insécurité qui l'assaillait. Mais c'est son regard de la foi, justement, au-delà de toute cette souffrance. Et le reste de l'histoire, c'est une démonstration puissante du fait que Dieu rémunère ce regard de la foi sur lui au-delà de la souffrance. Et c'est un témoignage de la puissance libératrice de cette foi qui regarde au-delà de la souffrance. Parce que non seulement elle vivait une souffrance dans le côté physique, bon, elle a vécu une famine, puis là, il se retrouvait dans une situation très précaire, où est-ce qu'il était vulnérable, avait pas beaucoup de choses pour subvenir à leurs besoins, étant les deux veuves, elle et sa belle-mère. Mais aussi, il y avait de la souffrance relationnelle. Pensez à la honte qu'elle avait, elle était différente. C'est une gentille, une païenne parmi le peuple juif. Elle était incomprise, même par ses plus proches. Orpa qui a décidé de retourner de bord, puis Naomi qui n'était pas très, très nécessairement la plus compréhensive et amicale avec elle, en tout cas du moins au début. Ça nous rappelle tout ça, le bagage de souffrance que porte la honte de nos histoires. C'est vous, si on fait le tour, on ne devrait pas faire le tour et s'attarder là-dessus, mais la réalité, c'est qu'on a des histoires personnelles passées qu'on n'aime pas trop raconter nécessairement haut et fort à tout le monde, n'est-ce pas? Puis, on va sombrer dans ce passé-là. On va tomber dans le découragement, voire le désespoir, si on contemple la souffrance de tout ce passé-là. Si on s'y arrête, si ça devient l'objet de notre attention. D'où l'importance d'être sécure dans l'amour bienveillant de Dieu. C'est-à-dire d'être convaincu, comme Abraham avait la conviction des promesses de Dieu. Écoutez bien, d'être convaincu que cette souffrance par laquelle Dieu nous a fait passer. Écoutez bien, là, parce que souvent, ce n'est pas comme ça qu'on pense. Mais la souffrance même par laquelle on a passé, c'est pas « Ah, ben Dieu nous endure, puis là, il a permis ça, parce que... » Non, non, la souffrance même, c'est la démonstration de l'amour de Dieu. Est-ce que Dieu a arrêté d'aimer Job à un moment parce qu'il a permis la souffrance? Est-ce qu'il a arrêté d'aimer Naomi puis Ruth à cause qu'il permettait cette souffrance dans leur vie? Non! Toutes ces choses étaient la démonstration même de son amour. Pour nous, ça ne marche pas. Ben, si tu aimes quelqu'un, tu ne vas jamais arriver de problème, puis... Dieu, lui, est beaucoup plus grand que ça. Et ça, c'est l'espérance vivante qui nous anime. C'est voir au-delà de la souffrance un Dieu qui nous aime et qui est bienfaisant. Il fait quelque chose de bon. Ça, c'est dur à croire quand on a mal. Ça, c'est dur à croire quand on a honte. Mais c'est justement ça, le regard de la foi qui voit au-delà de la souffrance. Et là, ça m'amène au point culminant de ce message ce matin. Savez-vous, c'est quand c'est le plus difficile à vivre, à accepter dans nos vies, ce rendez-vous divin où est-ce que Dieu nous rencontre au milieu de notre souffrance, puis qu'il nous révèle sa grâce, c'est le plus difficile lorsqu'on est sous la pression, parfois énorme, de la menace. Et c'est le troisième regard de la foi, non seulement regarder au-delà de l'impossible, comme Abraham, au-delà de la souffrance, comme Job et Ruth, mais ici, au-delà de la menace, comme Moïse avec la mer Rouge. On lit dans Exode 14, « Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. » Ah, ils ont crié à la bonne personne. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il y ait besoin de nous mener mourir au désert? Que tu nous aies fait, que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que mourir au désert. » Écoutez la réponse de Moïse. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les choses visibles sont passagères. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Des fois, on dit aux enfants, « Hey, arrête, t'es donc bien bruyant, puis on veut les faire taire. » C'est pourquoi des fois, on est bien plus tannant que des enfants. C'est nous qui gardons pas le silence. On est tellement agité. Ça crie, ça parle, puis les pensées s'agitent en foule au-dedans de nous. Oh, qu'on a besoin des consolations de l'Éternel qui réjouissent notre âme. Et Ici, c'était la menace. Comme avec Gédéon. Comme avec David et Goliath. Daniel et ses amis. Dans la fosse au lion pour Daniel. Dans la fournaise pour les amis de Daniel. Pierre sur les eaux, la menace. La pression de l'imminence du danger. C'est ce qu'on voit, il les voyait venir. Là. Et littéralement, c'était vraiment une question de vie ou de mort. Tu regardes-tu là ou tu regardes au-delà de la menace au Dieu qui est sur le bord d'ouvrir la mer. Puis qu'est-ce qu'il leur dit? Gardez le silence. Je dirais que ce silence, c'est celui du cœur. Celui qui attend en silence le secours de l'Éternel. Et ça, ça ne peut venir que par le regard de la foi qui voit au-delà de la menace. Car dès qu'on contemple la menace, on est saisi par la peur. C'est automatique. Quand on contemple, quand on s'arrête les regards sur la menace, c'est la peur, l'insécurité. Mais écoutez là-dessus quelqu'un qui a été saisi, mais d'une autre façon, Noé. C'est par la foi que Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, hein? Lui aussi regardait au-delà de ce qu'il pouvait voir de ses yeux, saisi d'une crainte respectueuse, construisit l'arche. Il a été saisi d'une crainte, mais de la bonne. Pas de la peur, mais de la crainte de l'Éternel. Et cette crainte de Dieu, c'est-à-dire cette conscience de la présence de Dieu, cette conscience que Dieu est plus grand que ce qu'on voit avec nos yeux, cette crainte-là, elle délivre. Cette crainte-là, elle nous amène la victoire. Parce que la crainte des personnes, des circonstances, de la menace nous paralyse, mais la crainte de Dieu nous libère. D'où l'importance d'être sécure dans l'amour souverain de Dieu. Avez-vous médité sur la souveraineté de Dieu dernièrement? C'est sécurisant. De savoir que ce qui nous arrive, Dieu est au contrôle de ça. Puis la souveraineté de Dieu nous est donnée dans la Bible toujours pour nous rassurer. Et cet amour souverain nous rappelle que l'amour parfait bannit la crainte. Puis là, levez-vous pas un matin et vous dites, hey, là, j'espère que mon amour va être parfait, j'aurai plus peur. Ça ne va jamais arriver. Notre amour n'est pas parfait, mais l'amour de Dieu, il est parfait. Regardez à l'amour de Dieu, contemplez-le, cet amour. Puis ça va bannir la crainte de vos cœurs du fait que Dieu vous aime. Et l'Esprit de Dieu qui est en dedans nous, nous rappelle ces choses. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, un esprit de crainte. Hein? Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. D'où l'importance, c'est ça, d'être tellement solide, sécure dans l'amour souverain de Dieu. L'Esprit de Dieu nous conduit toujours hors de la peur vers la sécurité de cet amour souverain. Mais ça doit passer par le choix délibéré de regarder au-delà de la menace. Tant que je regarde à la menace, je vais être prisonnier de cette menace. Je dois décider de regarder au-delà de ce qui menace, de ce qui fait peur. Et là, je vais être libre. La foi amène la liberté. La foi dans la vérité, dans le Dieu qui est vrai, c'est ça qui nous libère. Et ça brise l'asservissement de regarder à ce qui est physique. Si Abraham était resté dans les raisonnements puis regardait à sa condition, on n'aurait jamais eu l'histoire qu'on a maintenant. Mais il a été libéré, puis on voit maintenant les bénéfices de ça même dans nos propres vies. Et ça m'amène à conclure avec cette pensée bien simple ce matin. Juste résumé, voyez-vous comment l'objet de nos regards est important? C'est-à-dire où je fixe mes regards. C'est-à-dire que mon regard, je dois refuser par la foi de le fixer sur l'impossible, de le fixer sur la souffrance qui me fait mal, ce qui me fait honte, de le fixer sur la menace. Mais de regarder au-delà à Dieu, mais encore plus précisément à ce Dieu dont l'amour est tout-puissant, dont l'amour est bienveillant et dont l'amour est souverain. Ça, ça nous parle du caractère de Dieu, de le connaître, lui. Et ça, c'est notre plus grand bien, s'approcher de lui. Il n'y a rien de plus merveilleux. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Ce Dieu Il est notre plus grande sécurité, notre acceptation, celui qui nous donne une valeur, parce qu'on est précieux à ses yeux. Et nous avons tout pleinement en lui. Lui qui nous aime d'un amour éternel, c'est pourquoi il nous conserve sa bonté. À ce sujet-là, puisque j'ai parlé de l'amour de Dieu, qu'on voit, écoutez bien, je vais vous laisser des versets sur l'amour de Dieu. La solution, quand on a quelque chose, on voit, c'est regarder au-delà, je l'ai beaucoup dit. Mais c'est important de méditer sur les passages, sur ce que Dieu nous révèle, sur qui il est, spécialement son amour. Parce que c'est là que vient la délivrance, c'est là que vient la paix, c'est là que vient la joie. Puis je vous en laisse une coupe, vous pouvez les prendre en note, des beaux versets sur l'amour de Dieu. Il y en a plein dans parole, mais juste, j'en ai pris qui montrent la puissance de cet amour. Et c'est tout dans les épîtres pauliniennes, d'abord dans Philippiens 3. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. D'abord, cet amour, c'est un amour qui se fait connaître. Deux fois, il dit, ainsi, je connaîtrai Christ. C'est un amour relationnel. C'est pas juste quelque chose qu'on connaît dans notre tête. C'est quelqu'un qu'on connaît dans notre vie, dans notre cœur, et qui se révèle à nous. Et écoutez aussi Éphésiens 3, 19, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. C'est drôle que ça parle de connaître quelque chose qui surpasse toute connaissance, parce que l'amour de Dieu est tellement grand qu'on ne peut pas le comprendre complètement. Ça nous dépasse. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voulez-vous la plénitude du Saint-Esprit, la plénitude de Dieu? Concentrez-vous, saturez-vous de l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ça que le Saint-Esprit fait dans nos vies, mes amis. Écoutez aussi Colossiens 1. Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée, pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. On a tout pleinement en lui. Et donc, comment tu connais Dieu ce matin? Comment tu connais son amour? Le connais-tu de façon théorique? De façon mentale? Peut-être distante ou abstraite? Ou est-ce que c'est quelque chose qui réchauffe ton cœur, qui de plus en plus est proche et vrai et précieux? Tu peux connaître ce Dieu d'amour et l'amour de Dieu de façon concrète dans ton cœur, d'une façon proche, puissante, et c'est par la foi. Et j'aimerais vous dire que si Dieu, dans sa bonté, a permis l'impossible, la souffrance et la menace, c'est précisément parce qu'il veut vous révéler cet amour. C'est la raison pour laquelle. Ce n'est pas accidentel, c'est tout à fait prévu, planifié par Dieu dans son amour. Donc, détournons nos regards. Si vous êtes ici, peut-être que vous n'êtes pas sauvé, détournez les regards de ce qui vous accapare et portez sur celui qui sauve. Écoutez ce que ça dit dans Isaïe 45, 22. « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. » C'est le regard de la foi qui se détourne pour regarder à Dieu. « Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. » Ésaïe 45, 22. Écoutez pour ici les enfants de Dieu. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Amen. Donc c'est ça mon appel, tournons-nous vers Dieu. Merci Seigneur de ce que tu es digne de toute confiance et que rien ne peut menacer tes enfants. Oui, tu permets l'impossible, la souffrance et la menace. Mais c'est toi qui l'orchestres, c'est toi qui le veux ainsi. pour te révéler à nous, pour nous donner ce qu'il y a de plus précieux, toi-même. Oh Seigneur, enseigne-nous à aimer. Aimer tes voies, Seigneur. Aimer la façon que tu fais les choses. Au-delà de l'impossible, de la souffrance et de la menace. D'aimer te rencontrer là où tu nous amènes. Et Seigneur, je sais que ici, il y a beaucoup de témoignages. On t'a connu, beaucoup d'entre nous, pour le salut de notre âme, à travers des souffrances, à travers toutes sortes de choses. Et si quelqu'un est ici sans Jésus, sans sa vie, qui ne te connaît pas encore, oh, qu'il puisse voir que tu l'appelles à ton Fils pour être sauvé. Seigneur, on te prie que tu fasses cette œuvre de salut et aussi de sanctification pour tes enfants, Seigneur. On se tourne vers toi, tous ensemble, unis d'un même cœur. Et on te remercie, Seigneur, que ce n'est pas en vain parce que tu rémunères ceux qui te cherchent. Merci, Seigneur. Merci. On te bénit, on te loue au nom de Jésus. Amen.